Audiolib présente La Terre des Morts de Jean-Christophe Granger, lu par Lionel Bourguet. Première partie, chapitre 1. Le squonk avait tout pour lui déplaire. Une boîte de striptease soi-disant branchée située au troisième sous-sol d'un immeuble décrépit du 10e arrondissement. Marche, mur, sol, plafond, tout y était noir. Quand Stéphane Courceau, chef du groupe 1 de la brigade criminelle, avait plongé dans l'escalier, un sourd vrombissement lui avait aussitôt vrillé l'estomac. Il avait pensé au métro ? Pas du tout. Simple effet sonore à la David Lynch, histoire d'achever de vous oppresser. Après un couloir décoré de photos de pin-up 50s éclairées par une fine lampe de LED, un bar vous accueillait. Derrière le comptoir, les traditionnelles rangées de bouteilles étaient remplacées par des images en noir et blanc de sites industriels vétustes et d'hôtels abandonnés. No comment. Courceau avait suivi les autres spectateurs et obliqué à droite pour découvrir une salle en pente au fauteuil rouge. Il s'était installé dans un coin, voyeur parmi les voyeurs, et avait attendu que les lumières s'éteignent. Il était venu pour flairer le terrain et, de ce point de vue, il était servi. D'après le programme, une page de plastique noir écrite en blanc genre radiographie, on en était aux deux tiers du show, et Courceau se demandait pour la centième fois par quel snobisme bizarre ce genre de prestation ringarde. On avait opté pour la terminologie américaine, on parlait désormais de New Burlesque, était revenu à la mode. Il s'était déjà farci Miss Velvet, une brune coiffée à la Louise Brooks et couverte de tatouages, Candy Moon et sa danse d'essai de voile, Gypsy La Rose, capable d'ôter ses chaussures en faisant le petit pont. On attendait Mlle Nitouche et Levadol. Courceau n'avait jamais été attiré par ce type de show et le physique de ces dames ne l'incitait pas à l'indulgence, plutôt grasse, surmaquillée et grimaçante. Elle se situait aux antipodes de ce qui l'excitait. Cette pensée lui rappela Emilia et les premières conclusions du divorce que son avocat lui avait envoyé dans la journée. C'était la véritable raison de sa mauvaise humeur. En matière juridique, ses conclusions ne marquaient pas la fin de la procédure, mais au contraire, le début des hostilités. Un torrent d'injures et de mensonges dicté par Emilia elle-même, auquel il allait falloir répondre avec la même virulence. L'enjeu du combat était leur enfant, Thaddée, petit garçon qui marchait sur ses 10 ans et dont il voulait obtenir la garde principale. Courceau ne luttait pas tant pour conserver son fils que pour l'éloigner de sa mère. À ses yeux, le mal absolu, une haute fonctionnaire d'origine bulgare, adepte du SM dur. En remuant ses idées, une giclée acide lui inonda la gorge et il se dit que tout cela allait finir en ulcère, en cancer du foie ou, pourquoi pas, en homicide volontaire. Mlle Nitouche était arrivée. Courceau se concentra. Une blonde à peau laiteuse et hanches de mammouth. Elle ne portait déjà plus qu'un boa de plumes, 2 étoiles argentées sur les mamelons et un string noir qui avait bien du mal à faire le tour du sujet. Soudain, l'artiste se pencha pour farfouiller dans son derrière. Elle finit par y dénicher une guirlande de Noël qu'elle extirpa en jappant comme un petit chien. Courceau n'en croyait pas ses yeux. Les feuilleuses se mit à tourner sur elle-même, telle une toupie géante en équilibre sur ses talons de 12, faisant virevolter son ruban de soie sous les applaudissements enthousiastes des spectateurs. Il se résolut à envisager enfin la raison de sa présence à 23 heures passées dans ce rade obscur. 12 jours auparavant, le vendredi 17 juin 2016, le cadavre d'une artiste du squonk, Sophie Serres, alias Nina Weiss, 32 ans, avait été retrouvé aux abords de la déchetterie de la Poterne des Peupliers, près de la place d'Italie. Nue et ligotée avec ses sous-vêtements, la jeune femme avait été défigurée d'une manière horrible. Le tueur avait figé son visage sur un cri démesuré en incisant les commissures de ses lèvres jusqu'aux oreilles et en lui enfonçant une pierre au fond de la gorge pour maintenir la bouche largement ouverte. L'enquête avait été confiée au commandant Patrick Bornec, patron du groupe 3 de la brigade criminelle. Le flic, qui connaissait